Ce podcast est soutenu par la société Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et Engagé.
À la limite, moi, je préfère l'avoir dans un arbre après les branches que de l'avoir comme ça au gouvernement. Franchement,
calme-toi, t'as aucun intérêt à te
Faut pas éclater mes oreilles.
Je me revois, il y a environ une décennie de ça, je chante ce refrain à tue-tête dans les oreilles de tous ceux qui veulent bien se joindre à moi. De ma douche au dance floor, tous les prétextes sont bons pour m'ambiancer là-dessus. Pour les pas de danse, je n'ai qu'à m'inspirer de l'incroyable clip de la chanson. Alors oui, bon. J'ai pas le corps d'Emrata, a.k.a. Emily Ratajkowski, révélée au grand public grâce à cette vidéo. Bon, peu importe. Je me vois bien danser aux côtés des chanteurs de ce tube. Au casting, on a le lover Robin Thicke, fils de Alan Thicke. Ça ne vous dit rien ? C'est, pour moi, l'image du bon père de famille télévisé. Le docteur Seaver de Quoi de neuf docteur, série américaine familiale typique des années Antenne 2. Show me that smile, okay. Ooh, show me that smile. Don't waste another minute on your crying. We're nowhere near the end. On a aussi le rappeur T.I. Lui a l'air de bien apprécier la compagnie des femmes très peu vêtues du clip. Pourtant, ce même T.I. serait plus à l'aise si sa fille avait une ceinture de chasteté. Depuis qu'elle a 14-15 ans, il fait régulièrement vérifier son hymen. Au cours d'un examen gynécologique, et il se félicite qu'il soit toujours intact. Bon, une manière comme une autre de cultiver l'amour filial, me direz-vous.
Je t'aime, t'aime, je t'aime plus que tout.
Et enfin, on ne présente plus Pharrell Williams. D'ailleurs, lui aussi s'est dit « Tiens, pas besoin de me présenter. Hein. À qui ? Eh bien, aux ayants droit de Marvin Gaye. Il a samplé le titre « Got to Give It Up » pour Blurred Line. Mais il a tout simplement oublié de demander les droits. Pharrell et Robin Thicke ont donc été condamnés à verser 7,4 millions de dollars, soit 6,9 millions d'euros, aux héritiers de la star de la Motown pour plagiat. Honnêtement, est-ce que ça donne moins envie de danser ? Moi, je vais être très claire, hein. Il m'en faut plus. J'ai le dandinement et le karaoké facile. Surtout quand la musique est bonne. Je chante donc. sans me préoccuper des paroles. Et puis, un jour, je tombe sur cet article. Blurred Lines, le tube de Robin Thicke accusé de glorifier le viol. 20 minutes, 20 juin 2013. Alors, je mentirais en disant que j'y ai prêté grande attention. Que je me suis demandé si la blogueuse Lisa Huynh, citée dans l'article, avait raison de dénoncer sur sa plateforme. Dites que je suis cynique, mais la phrase « I know you want it » n'évoque pas franchement la notion de consentement à l'activité sexuelle. Sérieusement, cette chanson est dégoûtante, même si elle est, il faut l'avouer, très entêtante. Cette chanson est-elle si dégoûtante que ça? En l'entendant, j'ai plus envie de danser que d'hurler.
Eh, à moi! Faut pas éclater mes oreilles, hein. Pardon, faut pas rester ici.
Écoutons donc ce refrain entêtant attentivement. Et c'est pour ça que je vais prendre une gentille fille. Je sais que tu le veux. Je sais que tu le veux. Je sais que tu le veux. T'es une gentille fille. Bon, jusque-là, rien d'alarmant, hein. Mais en avançant dans les paroles, je me rends compte que notre gentille fille devient en un claquement de doigts. Pour ceux qui ont besoin de traduction, c'est donc la plus grosse salope du coin. Chouette compliment, hein? Et notre hottest bitch va être récompensé. Il veut donc lui donner un truc assez gros pour lui fendre le cul en deux. Bon, alors attention, hein? Si c'est fait dans le consentement, moi, je suis pour que chacun se fasse fendre en deux ce qu'il veut. Au vu du titre de la chanson, je me questionne. Parce que ce tube-là et son clip, visionné plus de 800 000 fois sur YouTube, a un titre assez ambigu. Blurred Lines, littéralement ligne floue. Dans cette chanson, nos trois larrons l'affirment. Ils détestent ces lignes floues. En réalité, ce qu'il déteste, c'est que notre good girl ne manifeste pas son intérêt de manière plus explicite.
Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon.
Bah, là, c'est clair, enfin. Pas de ligne floue chez Colette Renard. En somme, pas de zone grise. Zone grise. Si vous n'êtes pas familier du concept, voici la définition qu'en donne le site Information Violence Sexuelle, créé par le Centre Ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles en Île-de-France. L'expression zone grise désigne le flou entourant un acte sexuel à connotation sexuelle ou mettant en cause la sexualité et dont au moins l'un des participants se questionne sur son réel consentement. Ce terme est décrié par certaines personnes. Décrié parce qu'il n'a aucune valeur juridique. Pourtant, les enquêtes, articles, témoignages et documentaires ne manquent pas au sujet de cette zone grise du consentement. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, même si deux femmes sur trois déclarent avoir fait l'expérience avec un ou plusieurs partenaires d'actes sexuels non consentis, avec ou sans pénétration. Deux sur trois, C'est ce que révèle une étude sur le consentement du collectif féministe Nous Toutes, menée en mars 2020. J'ai pas dit oui. C'est d'ailleurs avec ce hashtag que le collectif a appelé les femmes à témoigner sur X, feu Twitter. À se livrer sur les moments où on ne s'est pas soucié de leur consentement. Alors, je vais être très honnête avec vous. À l'époque, je n'ai pas participé. J'ai pas pu, non. Trop occupée que j'étais à minimiser pour mieux continuer à danser sur Blurline. Pourtant, moi aussi, comme ces deux femmes sur trois, j'ai vécu des moments où j'ai pas dit oui. À des degrés différents, plusieurs fois dans ma vie, des garçons et des hommes ont fait fi de mon consentement. J'ai un souvenir très précis de la négation originelle de mon consentement. De la première fois où je me suis dit là, je suis pas d'accord, en fait. On doit être en 1990. Je suis environ en deuxième section de maternelle. J'adore l'école. Tellement que je chiale les mercredis et les week-ends pour y aller.
Un dimanche matin, on était carrément obligé de t'amener devant l'école pour te prouver qu'il n'y avait personne, car tu nous embêtais tous les dimanches pour aller à l'école.
Enfin oui, bon, ce que j'adore surtout, ce sont mes copines et la récréation. J'attends la sonnerie avec impatience. Pour aller faire de la corde à sauter ou des pactes d'amitié avec ma best friend forever, Vanessa. Bon, j'ai des copains aussi. Mais on joue pas trop ensemble dans la cour. Je suis pas encore la collégienne pick me girl que vous avez aperçue dans l'épisode 3. La cour est comme divisée. D'un petit côté, les filles jouent à la marelle. Et au milieu, les garçons jouent au foot. Il y a bien un garçon avec nous, Antoine. Mais pour Antoine, pas question de jouer à la marelle. Ses petites mains ne lui servent pas à jeter le palet dans les cases numérotées. Non, non. Lui, il vise autre chose.
Les garçons ont les yeux qui brillent. Un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles.
Oui, Antoine trifouille sous les jupes de beaucoup de filles. Antoine a les yeux qui brillent, comme le chante Alain Souchon. Mais les miens, eux, pleurent. Mais moi, j'ai pas envie qu'Antoine voie ma culotte. Alors la cour de récré se transforme en gigantesque terrain de cache-cache. Et je dois l'avouer, Antoine gagne souvent, très souvent. Au milieu de la cour, sur les côtés et même dans les toilettes des filles, il arrive toujours à me retrouver. Zélia, qui partageait la même cour que moi, confirme.
Ben, Antoine, effectivement, il harcelait et soulevait toutes les jupes des filles. Mais c'est vrai qu'avec toi, toi, t'étais sa cible, en fait, à chaque fois.
Alors, c'est peu dire que je ne suis pas super contente d'attirer si souvent l'attention des mains souleveuses là d'Antoine. Ça me met plutôt dans cet état. Et comme c'est arrivé plus de fois que je ne peux le compter, un jour, mes pleurs arrivent enfin aux oreilles d'une grande personne. Celle de Brigitte. Brigitte, une gentille dame de service, qui s'inquiète.
Bah Judith, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tombée? T'as perdu ton jouet? Tu t'es disputée avec ta copine Vanessa?
Non, non, rien de tout ça, Brigitte. Et je lui explique. Avec mes mots, qu'Antoine, il fait rien que de soulever ma jupe pour voir ma culotte. Et là, Brigitte est soulagée. Elle rigole même. Elle se baisse à mon niveau et me dit
« Arrête de pleurer, c'est parce qu'il t'aime bien. Comment tu vas faire quand tu seras plus grande ?»
Elle me fait un clin d'œil et repart. Elle me laisse planter là, seule, avec cette info. Dans le flou le plus total. Un flou qui va mettre un peu de temps à s'estomper. Hein. Ben, s'il m'aime bien, pourquoi à chaque fois que je le vois, j'ai envie de devenir invisible? Comment tu vas faire quand tu seras plus grande? Eh bien, je vais te le dire, Brigitte. J'ai navigué avec ce trouble. Les, très heureusement, hein, nombreux moments de respect absolu de mon consentement ont cohabité avec des instants inconvenants qui m'ont durablement marqué. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, parfois, pas tout le temps, hein, j'ai laissé. J'ai laissé passer les mains. Pas juste celle d'Antoine. Celle d'inconnus qui, au prétexte que je partage l'espace public avec eux, se disent qu'ils peuvent disposer librement de mon corps. Main aux fesses, main sur les hanches, main sur la poitrine. Comme 87%, oui, 87% des usagères des transports en commun, j'ai été victime au moins une fois de harcèlement ou d'agression sexuelle. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude de 2016 de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Et comme la majorité des femmes, bah, j'ai pas donné suite. Sur 87% des femmes victimes, seulement 2% portent plainte. 2%. J'ai laissé parler ce pote de pote de pote. Un de ces soirs de première cuite, il a cru bon de glisser ses doigts là où il n'était absolument pas invité. Dans un sursaut mi-aviné, mi-lucide, je lui fais comprendre qu'ils ne sont pas à la bonne place.
On va lui couper la main.
Une lutte s'engage jusqu'à la fin de la soirée pour être capable de dire non à chaque fois qu'il tente de s'approcher de moi. C'est le lendemain de la soirée. Lui et son ego froissé diront à qui veut l'entendre qu'il y a deux versions dans une histoire. Une histoire que je n'avais d'ailleurs racontée à personne. Et puis, il poursuit en disant que je ne sais pas ce que je veux. Alors, moi, je savais très bien ce que je voulais, ou plutôt ce que je ne voulais pas. J'ai clairement dit non. Mais lui fait partie des 11% d'hommes qui pensent que lorsqu'on essaye d'avoir des relations sexuelles avec elle, beaucoup de femmes disent non, mais ça veut dire oui. C'est ce que met en avant l'enquête d'Ipsos France, les Français et les représentations sur le viol et les violences faites aux femmes, enquête commandée en 2021 par l'association Mémoire traumatique et victimologie. J'ai donc laissé passer, laissé parler et j'ai aussi laissé faire. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais je fais partie des 9 femmes sur 10 qui déclarent avoir fait l'expérience d'une pression pour avoir un rapport sexuel. C'est ce que dit l'enquête que j'ai déjà citée plus tôt de nous toutes. 9 sur 10, c'est aussi le nombre de femmes victimes qui ne déposent pas plainte. Ça, ce sont des chiffres de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales datés de 2017. Bon, des chiffres. Je ne sais pas pour vous, mais tous ces chiffres me dépriment un peu. Je fouille donc dans ma mémoire pour trouver une anecdote de non-consentement pas si plombante. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, j'ai laissé danser. Mieux, j'ai laissé twerker. Oui, laissé twerker un mec qui, devant mon refus de le laisser mettre sa main dans l'afro que j'arbore, ne trouve rien de mieux que d'agiter son fessier pour me convaincre.
Est-ce que tu sais twerker?
Non.
Alors, pas besoin d'illustrer ça avec un chiffre. Je suis prête à parier qu'il n'y a qu'à moi que c'est arrivé. Et si c'est pas le cas, merci de vous manifester pour qu'on ouvre un club. En faisant le récit là, de tous ces moments où j'ai laissé, une réflexion me vient à l'esprit. Avec sa phrase, Brigitte n'a finalement fait qu'une seule chose, me préparer. Me préparer à accepter que parfois, on se fiche que j'ai pas dit oui. C'est sa manière à elle de pratiquer la sororité. Et ce serait tellement plus simple, tellement moins fatigant de grossir le rang de toutes ses sœurs. Celles qui militent pour la liberté d'importuner.
En France, les réactions sont nombreuses hein, après la tribune publiée dans Le Monde par un collectif de 100 femmes qui rejettent le féminisme qui exprime une haine des hommes qui était apparue après l'affaire Weinstein.
Le Tribune avec comme porte-étendard l'actrice Catherine Deneuve, l'actrice française, mais pas seulement. On trouvait également Elisabeth Lévy, encore Catherine Millet, connue pour leur anti-féminisme. Des signataires qui critiquent, je cite, un retour du puritanisme et défendent la liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle.
Celle qu'ils pensent qu'il faut en passer obligatoirement par là.
Le numéro anti-relou, je vous donne un exemple. Il vous dit, si vous êtes un relou, donc il y avait enquiquiné une fille, harcelé, donc, il vous dit, vous avez pu faire quelque chose qui a mis mal à l'aise une femme. Eh bien, à mon avis, toutes les histoires d'amour commencent par quelque chose qui peut mettre mal à l'aise la femme ou l'homme.
Donc, sérieusement,
mais vous faites une généralité.
Toutes les histoires d'amour
commencent par un regard, par exemple. Un regard, si à la fin ça ne vous plaît pas, il peut vous mettre mal à l'aise.
Une agression.
Celles qui considèrent que les insultes, aussi offensantes soient-elles, ne sont pas un indicateur de violence potentielle et réelle.
C'est exactement ce que les néo-féministes nous disent depuis une dizaine d'années avec cette histoire de culture du viol. C'est-à-dire que maintenant, tu dis « espèce de salope », ah, culture du viol. Rien qu'avec les mots, vous mettez déjà dans les esprits l'idée qu'on peut violer une femme parce qu'on l'a insultée. Mais il faut arrêter avec ça.
Près de 35 ans après la petite phrase de Brigitte, je me dis que ce serait tellement plus confortable de ne pas bousculer l'ordre établi, de continuer à laisser faire.
À quoi bon ? Vivre sur cette terre, à quoi bon avoir un frère, à quoi bon.
Mais bon, le timing là est un peu farceur. Ma crise de foi féministe coïncide avec les 25 ans d'une association auprès de laquelle je suis engagée. Bon, pas autant que je le voudrais, certes, mais oui, moi, je siège au conseil d'administration de Batik International. Batik, c'est quoi ? C'est une association créée en 1998 et qui œuvre contre l'injustice sociale et pour la construction des sociétés plus égalitaires et inclusives. Sa promesse ? Faire le choix d'un monde plus juste. C'est beau, hein ? Eh bien, ce choix s'exprime à travers des projets solidaires réalisés en partenariat avec des organisations locales en France et à l'international, pour renforcer le pouvoir d'agir. Ce qu'on appelle l'empowerment. Une des missions transverses de l'association est la défense des droits des femmes et la lutte contre les violences de genre. Alors, avant de m'épancher sur mes turpitudes là de féministes égarées, je vais voir celles qui sont sur le terrain. Celles qui portent l'héritage d'une association qui, depuis sa création, a mené à bien 36 projets, accompagné près de 7500 personnes individuellement et sensibilisé plus de 35 000 personnes bénéficiaires. Lors d'une énième soirée où j'ai eu envie de baisser les bras, j'ai donc toqué à la permanence de l'association Batik. M'y attendaient sa directrice, mon amie Sarahi, et deux de ses collègues, Manon et Gwep, toutes les deux chargées de projet. Mais comment elle continue à faire le choix d'un monde plus juste ? Perso, moi j'ai un peu de mal à comprendre. Moi qui glisse de plus en plus vers ce que le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes caractérise comme, je cite, « une tolérance, une zone d'acceptabilité du sexisme ».
Bah, les filles, je suis vraiment ultra contente de vous voir aujourd'hui parce que c'est vrai que là, je suis dans une période un peu de down, je vous avoue. J'ai entendu tellement de choses, j'ai tellement les oreilles encombrées de phrases, de micro-agressions, de moments qui me donnent envie, en fait, de baisser les bras, quoi. Qui me donnent envie de dire, bon, bah, de toute façon, à quoi bon? On va rester comme ça, dans des statu quo. T'ouvres les infos, tu vois encore un féminicide. T'ouvres les infos, tu vois des histoires pas possibles sur des mecs qui violent des femmes, mais qu'on célèbre encore aujourd'hui. Et en fait... je me dis comment vous faites à continuer de faire le choix d'un monde plus juste en à travers vos actions, en travaillant au quotidien sur des problématiques féministes et de développement.
Non, Judith, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est baisse pas les bras, tu n'es pas seule. Je pense que ces moments de doute, on a toutes vécu. Et moi, quand je me sens comme ça, la première chose à laquelle je pense, c'est aux femmes qu'on accompagne, à leur courage, à leur espoir. C'est des vraies Wonder Woman.
Ah oui, ça me parle, ça. J'ai des noms, des mots, des discours qui représentent parfaitement mon idéal féministe. Un discours comme celui reproduit par l'actrice Kerry Washington, par exemple. Elle reprend ici les mots de la prédicatrice et militante abolitionniste afro-américaine Sojourner Truth. Ain't that a woman? Ne suis-je pas une femme? C'est ce titre qu'une autre autrice et militante, Bell Hooks, a utilisé pour nous offrir l'un des ouvrages fondateurs de l'afroféminisme.
And ain't I a woman? Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man could head me. And ain't I a woman?
Si la première femme que Dieu a créée était assez forte pour mettre le monde à l'envers à elle toute seule, alors les femmes, ensemble, devraient être capables de le remettre en place et de le refaire tourner rond. Et maintenant qu'elle demande à s'y mettre, les hommes feraient mieux de les laisser faire.
Les séquences, c'est bien, mais je te conseille aussi d'aller regarder les femmes qui t'entourent. On a tous et toutes des Wonder Women autour de nous, des femmes qui mobilisent leur courage, de leadership pour affronter des problématiques qu'ils rencontrent. Et puis moi, je te conseille d'y penser ou de leur demander qu'est-ce qu'elles feraient à ta place.
Sarah a raison. Et celle à qui je pense dans ces cas-là, c'est ma cousine, Stéphanie. Est-ce que Steph a laissé croire, laissé ma nièce, sa fille Yasmine, croire qu'elle n'était pas jolie avec ses cheveux crépus? Alors là, pas question. Un jour, je la vois débarquer avec une nouvelle tête, une magnifique afro courte. Exit les tresses, les tissages ou les perruques bien connues de beaucoup de femmes noires. Pour aider sa fille à comprendre qu'elle vaut autant que ses petites copines aux cheveux raides qui volent au vent, elle revient au naturel. Et c'est pas rien, hein. C'est pas rien quand on sait que près de la moitié des femmes noires âgées de moins de 34 ans ont le sentiment de devoir se lisser les cheveux pour leur photo professionnelle. C'est ce que dit une étude Dove et LinkedIn sur le sujet de l'inclusion et des cheveux au travail. Ça fait 5 ans que la phrase « Qu'est-ce que Steph ferait à ma place ?» résonne un peu différemment. 5 ans qu'elle est partie, comme on dit. 5 ans que je ne peux plus lui dire « Heureusement que tu fais partie de ma vie. » Pas que pour le football, comme vu dans l'épisode 3, mais aussi pour avoir pas mal de fois ouvert la voie. Et même si, de mon côté, je n'ai pas encore renoncé, comme elle, à mes artifices capillaires, je sais que quand ce jour viendra, ce sera encore quelque chose que je pourrais attribuer à Steph.
Moi, quand j'ai un petit coup de blues féministe, je me dis, bon, les choses ont déjà changé, il n'y a pas de raison que ça continue pas à bouger. Et puis, je pense à tous ces collectifs, la plupart du temps composés de femmes, partout dans le monde, qui se mobilisent. Ça paraît être des petites actions, mais en fait, tout mis bout à bout, c'est ça qui peut vraiment faire changer les choses. Et par exemple, elle, dans le livre Reclaim de Emily H., elle continue à revendiquer leurs droits, la protection de la nature. Et je me dis que tout ça, mis bout à bout, on y arrivera, quoi.
C'est plutôt vrai, ça. et j'ai une initiative bien en tête. Une initiative portée par deux femmes qui, elles aussi, rendent le monde plus juste pour les autres, surtout pour les plus jeunes, qui en ont bien besoin. Bon, j'ai pas envie de faire ma vieille conne, mais il y a du boulot, hein. Il y a quand même plus d'un tiers des 18-24 ans qui pensent qu'une femme peut prendre du plaisir à être humiliée ou injuriée, et près d'un quart qui estime qu'elle prend du plaisir à être forcée. Ça, c'est tiré de l'enquête de l'association Mémoire traumatique et victimologie que j'ai citée précédemment. J'ai limite envie de me lancer dans un sermon bien senti.
Bon, allez, sortons un mot.
Bon, je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites ?
Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire.
Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire ?
Ben, faut que j'app...
Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux.
Alors, il faut
des trous du cul. Des cons.
Puis, je me rappelle de moi, plus jeune. De la pick me girl dont je vous ai déjà parlé. De moi qui dit « Ben non, je ne suis pas féministe, hein, je suis humaniste. » De moi qui doute des paroles de cette fille, une lointaine connaissance, quand elle confie une agression sexuelle. Attends, ça ne peut pas être vrai. Hein. Elle est sortie avec au moins 5 mecs du lycée, tout le monde le dit. Hein. Aujourd'hui, je me dis qu'à cette époque, j'aurais bien aimé faire pour elle ce que font Shanley Clémotte McLaren, Anna Wutaïk et bien d'autres pour beaucoup de jeunes femmes. Depuis 2020, elles se sont lancées dans un combat contre les comptes Ficha. Ficha pour affiche. Et qui on affiche ? Des jeunes femmes, pour la plupart mineures, qui voient des images d'elles à caractère sexuel publiées sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien souvent de revenge porn. Ce concept, qui consiste à diffuser des photos, vidéos ou même des sons à caractère intime pour se venger d'une ex-relation. Classe, hein. En France, les victimes les plus célèbres s'appellent Lorman Odou ou encore Benjamin Griveaux. Mais comme je le disais plus tôt, cela arrive surtout à des jeunes filles mineures. Pour faire face, Shanley Clémotte McLaren et Anna Wutaïk, cofondatrice de Stop Ficha, offre un accompagnement moral et juridique aux victimes de cyberviolences sexistes et sexuelles. Elles vont dans les collèges, dans les lycées, pour tenter de briser une fois pour toutes ce cercle vicieux.
Pas question pour les deux jeunes féministes de culpabiliser les victimes.
Si vous envoyez des photos intimes à votre partenaire ou pas, c'est très important de ne pas mettre votre visage, ni de bijoux, colliers, tout ça qui pourrait vous reconnaître.
Mais vous êtes libre de poster ce dont vous avez envie et de l'envoyer à qui vous avez envie.
Donc c'est très important que les deux soient consentants, mais c'est dans vos droits et ça regarde que vous. Merci.
Et moi, ces derniers temps, ce qui me permet de me rebooster, c'est une phrase d'Audre Lorde, une poétesse afro-américaine, qui a écrit que tant de silences doivent être brisés. Et quelque part, ça fait écho à ce que mes collègues ont dit auparavant, dans le sens où, à plusieurs, on peut être des porte-voix, on peut mener des messages beaucoup plus haut, on peut lutter ensemble. Et surtout, on peut se soutenir quand individuellement, ça ne va plus du tout.
Être un porte-voix. Moi, j'aime bien le concept. Et j'espère qu'en retraçant le chemin de toutes les phrases qui ont éclaté mes oreilles, j'ai donné envie à d'autres de dire « Mais attends, à moi aussi, on m'a déjà cassé les oreilles et j'ai envie d'en parler. » De briser le silence, comme le réclame Audre Lorde, cité par Gwep, dans son texte « Transformer le silence en parole et en acte ». D'ailleurs, s'agissant de paroles, j'ai choisi de conclure avec celle un peu revisitée que j'ai traduite au début de cet épisode. Bon, je suis assez lucide sur mes aptitudes musicales. Je vais juste faire la backup singer d'une vraie chanteuse, ma cousine Mélo. Hello Mélo.
Hello Jude.
Bon, alors, j'ai un tout petit peu réécrit les paroles de Blurred Line. C'est un premier jet. Hein. Donc, est-ce que tu peux faire un petit essai? Et puis, plus tard, on y retravaillera toutes les deux pour réécrire vraiment les paroles de la chanson.
Allez, c'est parti.
Ça te dit? Ouvrez grand vos oreilles. Hé hé hé. Hé hé hé. Hé hé hé.
danser, hey, hey, hey. Pas fini de chanter,
no, no, no.
Pas fini de parler. Good girl,
oh, yeah.
Good girl ou bad bitch,
ah.
Oui, on est toutes là, mm-hmm. On baisse pas les bras,
no, no.
Good girl. Et on lâchera pas,
no, no.
C'est une question de choix.
De choix.
Un monde plus juste. Good girl. On y arrivera.
Eh oui.
On y arrivera.
Oh yeah.
Eh, eh, eh.
All right. Merci Mélo.
Merci tu.
Allez écouter Mélo, c'est important. Et puis, merci. Merci à Brigitte, la fausse Brigitte, mais une vraie Brigitte qui a fait la voix pour moi, pour reproduire ce que Brigitte m'a dit il y a 35 ans de ça. Merci à l'association Batik, à Sarahi, à Manon, à Flora, à Gwep. Et puis merci à tous ceux qui ont prêté leur voix. Je vais citer Zélia, je vais citer ma maman aussi qui est dans cet épisode. Et puis merci au studio de m'avoir accompagnée. Merci à All Sounds. Merci à Maceo. Et puis bien sûr, merci à Vincent Berthe, rédac-chef de So Good Radio. Merci.